VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à toutes, le monde aujourd'hui, édition du vendredi 25 novembre 2016. En direct de Washington, Idrissa Seydoudia et Anne Albertson. Tout d'abord, les titres.
Au Burkina Faso, les militaires à nouveau autorisés à entrer au gouvernement.
Situation préoccupante pour les réfugiés maliens qui continuent d'arriver dans le sud-est de la Mauritanie.
En Angola, début du procès de 37 personnes, aujourd'hui à Luanda, pour une tentative de coup d'État datant de janvier et révélée seulement la veille.
En Égypte, 8 soldats ont été tués hier dans le nord du Sinaï par des djihadistes présumés.
Un soldat américain a été tué hier par un engin explosif improvisé dans le nord de la Syrie.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal.
Au Burkina Faso, les militaires sont donc autorisés à nouveau à entrer au gouvernement. Le Parlement a voté hier un amendement pour abroger l'interdiction à l'armée de s'engager en politique. Des détails avec Eric Manirakiza.
La restriction n'aura duré que 17 mois. Le Conseil national de la transition, créé après la chute de Blaise Compaoré, avait introduit en juin 2015 une loi pour interdire aux militaires de faire de la politique. Un militaire en exercice ne pouvait plus occuper des postes ministériels et autres fonctions dans l'administration publique. Il s'agissait notamment de direction générale, de société d'État ou de président d'institution. Le député Alidou Sanfo a plaidé pour la modification de cette loi qui, pour lui, portait confusion sur la dépolitisation de l'armée et des militarisations de l'administration. Estimant que les militaires sont des citoyens à part entière, le député Sanfo a donc arraché le retour des militaires dans la sphère politique. Toutefois, l'interdiction imposée aux militaires d'adhérer à un parti politique ou à une association à caractère politique reste maintenue. En revanche, les 120 députés ont rétabli l'ancien système d'avancement dans l'armée et désormais, l'avancement ne peut se faire qu'au grade immédiatement supérieur.
Le colonel à la retraite, Lona Charles Ouattara, est député. Il explique pourquoi il n'a pas voté pour cette loi qui autorise à nouveau les militaires à entrer au gouvernement.
Si les militaires sont autorisés à faire de la politique, ça voudrait dire qu'il y a trop d'officiers supérieurs finalement. Ça veut dire aussi que la pyramide des grades n'est pas maîtrisée. C'est ce qui explique que sous la transition, par exemple, qu'on ait eu jusqu'à 18 officiers qui étaient membres du CNT, c'est-à-dire du Conseil national de la transition, l'Assemblée passée sous la transition. Vous pensez bien que ce n'est pas une bonne gestion de l'armée, ça, des personnels militaires.
Quelques 3000 Maliens fuyant le regain de violence dans le nord de leur pays sont arrivés depuis septembre en Mauritanie, grossissant les rangs de leurs compatriotes déjà à Mbeira, dans le sud-est mauritanien. C'est ce qu'ont annoncé hier à Nouakchott des agences onusiennes. Précision de John Linden.
Depuis septembre, 3000 réfugiés maliens ont gagné le camp de Mbeira et sont encore en phase de recensement et de traitement pour leur prise en charge, a déclaré François Reynaud du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés en Mauritanie lors d'une conférence de presse. D'après les chiffres du HCR, ce camp accueillait avant leur arrivée près de 43 000 réfugiés maliens. Selon François Reynaud, les nouveaux venus ont fui l'instabilité et l'insécurité dans les régions limitrophes du Mali avec la Mauritanie, notamment la zone de Léré dans la région de Tombouctou, au nord-ouest du Mali. Le programme alimentaire mondial en Mauritanie est inquiet. 17 millions de dollars seront nécessaires pour les 6 mois à venir et 31 millions de dollars pour l'année 2017 pour assurer la prise en charge des réfugiés. Hier, le Japon a annoncé un don financier de 9,4 millions de dollars en faveur du camp de Mbeira, mais aussi des populations des zones riveraines.
Au Nigeria, 5 personnes ont été tuées dans des attaques perpétrées dans 3 villages du nord-est par les islamistes armés de Boko Haram. Les terroristes ont aussi incendié des maisons et des champs, selon plusieurs témoignages recueillis hier par l'AFP. C'est mercredi que des hommes armés sont arrivés à vélo dans ces villages situés dans l'état de Borno. Ces localités sont proches de Chibok, la ville où plus de 200 lycéennes avaient été enlevées par les islamistes il y a 2 ans, et de la forêt de Sambisa, l'un des principaux fiefs de l'organisation.
Le Premier ministre du Canada, Justin Trudeau, a entamé jeudi par le Libéria sa première visite officielle en Afrique, avant Madagascar, où il doit participer au sommet de la francophonie. Lors d'une conférence de presse conjointe avec la présidente Helen Johnson-Sirleaf, il a annoncé un soutien du Canada pour l'organisation de l'élection présidentielle libérienne de l'année prochaine.
37 personnes sont jugées à partir de ce vendredi devant un tribunal de Luanda pour une tentative de coup d'État datant de janvier. Bagasikura, cette tentative n'avait jusque-là pas été rendue publique.
L'affaire n'a été révélée qu'à la veille du procès afin d'éviter toute spéculation inutile et la panique dans la population, a expliqué le procureur. Poursuivi pour association de malfaiteurs, ces personnes sont accusées d'avoir tenté de lancer un assaut armé contre le palais présidentiel et d'occuper les locaux de la radio-télévision publique au petit matin du 31 janvier dernier, selon l'acte d'accusation révélé par l'agence de presse officielle Angop. Les accusés sont d'anciens membres de la branche armée du principal parti d'opposition, l'ancienne rébellion de l'UNITA, l'Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola. L'UNITA a nié ces accusations ce jeudi lors d'une conférence de presse. Selon le procureur, une vingtaine de personnes soupçonnées d'être mêlées à cette tentative sont encore recherchées par la police.
Le gouvernement britannique a rejeté les critiques sévères d'un rapport parlementaire sur son intervention en Libye en 2011. Il a jugé que son action a sans aucun doute permis de sauver des civils. En septembre, un rapport parlementaire avait sévèrement critiqué l'intervention militaire engagée par Londres et la France, car elle était fondée, je cite, « sur des postulats erronés et une analyse partielle des preuves ».
En Égypte, 8 soldats ont été tués hier dans un attentat à la voiture piégée à un point de contrôle dans le nord du Sinaï. Au moins 12 autres ont été blessés. Les 3 assaillants sont morts dans l'attaque. Aucun groupe n'a revendiqué cet attentat, mais les forces égyptiennes combattent des extrémistes islamistes dans le Sinaï depuis le renversement du président Mohamed Morsi des Frères musulmans en 2013 à la suite de grandes manifestations contre son régime.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Qui sera le prochain chef de la diplomatie américaine? C'est la grande question que l'on se pose au sujet du futur gouvernement de Donald Trump. Les fervents partisans du président élu des États-Unis, refusant que ce poste stratégique revienne au modéré républicain Mitt Romney, ex-ennemi juré du milliardaire. Le point avec Jean-Roger Bion.
Le secrétaire d'État est considéré comme la voix et le visage de l'Amérique à travers le monde, donc il s'agit d'un poste important qui fait l'objet d'une âpre bataille pour savoir qui succédera au démocrate John Kerry à la tête du département d'État, ministère des Affaires étrangères de 70 000 employés, pilotant le premier réseau diplomatique de la planète. Citant des sources de l'équipe de transition, le New York Times avance que l'entourage du président élu se déchire entre l'ancien maire de New York, Rudolph Giuliani, et le candidat républicain malheureux à la présidentielle de 2012, Mitt Romney. M. Giuliani, soutien de la première heure de M. Trump, mais sans expérience en politique étrangère, avait dès le début exprimé son désir de diriger la diplomatie. Cet ancien maire de New York considérerait même ce poste comme devant naturellement lui revenir. Face à lui, M. Romney, un républicain battu en 2012 par le président démocrate sortant Barack Obama, représenterait une formidable prise pour Donald Trump parce qu'il pourrait rassurer les centristes du Parti républicain et les alliés des États-Unis qui s'inquiètent du saut dans l'inconnu de la politique étrangère du magnat de l'immobilier. Mais cet ex-gouverneur du Massachusetts, que l'on compare dans le style à John Kerry, avait traité le candidat Trump aux primaires de charlatan et d'imposteur. Et des caciques républicains loyaux de la première heure du prochain 45e président ne manquent pas de dire tout le mal qu'ils pensent de l'option Romney au département d'État.
À Mossoul, les forces irakiennes resserrent l'étau autour du groupe État islamique, désormais quasiment encerclé. Mais ces djihadistes continuent de frapper loin de la ligne de front. Un camion piégé contenant 500 litres de nitrate d'ammonium a explosé jeudi dans une station-service remplie de cars revenant d'une importante fête religieuse dans la ville sainte chiite de Kerbala, dans le sud-ouest, a-t-on appris auprès des services de sécurité.
Un soldat américain a été tué hier par un engin explosif improvisé dans le nord de la Syrie. C'est ce qu'a annoncé le CENTCOM, le commandement central américain, sans autre précision. Des soldats américains, membres de la coalition internationale, sont dans la région pour aider à combattre le groupe État islamique.
Jude Célestin, candidat à l'élection présidentielle haïtienne, dont le premier tour s'est déroulé dimanche, a dénoncé hier des irrégularités dans le processus de dépouillement pouvant, selon lui, entacher l'intégrité des résultats. Les représentants de la Ligue alternative pour le progrès et l'émancipation haïtienne, la paix, parti de M. Célestin, ont constaté que de nombreux procès-verbaux ont été acceptés et validés alors que les listes d'émargement corrélatives ne portent ni signature ni empreinte digitale des votants, seuls capables de garantir l'authenticité du vote.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Écho, Anastasie Toudiech.
Le président élu des États-Unis, Donald Trump, serait-il l'homme de la croissance mondiale relancée ? Pour la directrice générale du FMI, Christine Lagarde, la promesse de campagne du mania de l'immobilier est positive. Monsieur Trump veut mener à bien un grand plan d'investissement aux États-Unis d'environ 550 milliards de dollars pour rénover les infrastructures. Le PDG de Kenya Airways, Mbuvi Ngudze, démissionnera début 2007, comme le réclamait le syndicat des pilotes de la société. Fin juillet, Kenya Airways a publié une perte nette de 26,22 milliards de shillings, soit 230 millions d'euros, sur un exercice annuel achevé le 31 mars 2016, la pire perte nette d'une entreprise dans l'histoire du pays. Quelques 300 étudiants et lycéens ont protesté au Soudan contre les 30% de hausse du prix du carburant. En cause, une pénurie causée par un manque de devises étrangères entraînant une hausse des prix des produits. Au Nigeria, après quelques semaines de relative accalmie, les attaques menées depuis le début de l'année contre des pipelines dans le sud du pays n'ont pas cessé, menaçant de faire chuter à nouveau la production pétrolière. Le gouvernement se veut toutefois optimiste, assurant que la production était presque revenue à son niveau normal, soit 2,1 millions de barils par jour.
À présent, les sports avec Bagassi Koura. Bagassi, bonjour.
Oui, bonjour Idrissa.
On a joué hier soir en Europa League. Quelques résultats de cette cinquième journée.
Oui, dans le groupe A, les Turcs de Fenerbahçe ont battu Zarya Lugansk 2-0. Dans le groupe C, large victoire de Anderlecht sur FC Kabala 3-1. Dans le groupe G, victoire de l'Ajax d'Amsterdam 2-0 face aux Grecs de Panathinaikos. L'Ajax est en tête de ce groupe où Celta Vigo et le Standard de Liège se sont neutralisés un but partout. À noter enfin cette large victoire de Shakhtar Donetsk 4-0 contre Konyaspor.
Samuel Eto'o risque la prison en Espagne pour fraude fiscale.
Oui, le parquet espagnol a requis hier des peines représentant au total 10 ans de prison et le paiement de 18 millions d'euros d'amende à l'encontre du footballeur Samuel Eto'o poursuivi pour fraude fiscale. Dans des réquisitoires datés du 10 novembre, le parquet assure que l'ancien attaquant camerounais du FC Barcelone qui a quitté le club en 2009 a mis en place un montage de société pour éviter de déclarer une partie des revenus tirés de ses droits à l'image à partir de 2006, une fraude représentant un manque à gagner de quelque 3,9 millions d'euros pour le fisc espagnol.
Mondial 2018, Poutine s'entretiendra vendredi avec Infantino.
Oui, le président Vladimir Poutine, dont le pays organise le Mondial 2018 de football, s'entretiendra aujourd'hui à Moscou avec le président de la FIFA, Gianni Infantino, selon le Kremlin. Monsieur Infantino s'est montré très prévenant mercredi à l'égard de la Russie en évoquant la prochaine réforme du format de la Coupe du Monde à partir de 2026.
Steven Gerrard prend sa retraite.
Oui, l'ancien capitaine de Liverpool et de l'équipe d'Angleterre qui évoluait dernièrement avec Los Angeles Galaxy dans le championnat nord-américain de football a annoncé hier qu'il prenait sa retraite sportive à l'âge de 36 ans. Steven Gerrard restera pour toujours le capitaine légendaire de Liverpool au dénouement exceptionnel sur le terrain et à son club avec en point d'orgue la renversante finale de la Ligue des Champions 2005 remportée au tir au but après avoir remonté un écart de 3 buts face au Milan AC.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
En votre compagnie, Idrissa Seloudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Sud Kivu, en République démocratique du Congo, la MONUSCO, mission des Nations Unies au Congo, a annoncé hier que 33 ex-combattants des forces démocratiques de libération du Rwanda et 83 de leurs dépendants ont été rapatriés de janvier à novembre 2016. La société civile trouve le rythme de ce rapatriement plutôt lent. De Bukavu, notre correspondant sur place, Ernest Muhero.
Au cours de ce café de presse, le délégué de la section désarmement, démobilisation et réintégration de la mission des Nations Unies pour la stabilisation en RDC ont expliqué aux journalistes que grâce à une série d'activités de sensibilisation et démobilisation volontaire organisées par le bureau DDR au Sud Kivu, plus de 100 Rwandais vivant au fin fond du Sud Kivu ont accepté de rentrer au Rwanda, parmi eux 33 ex-combattants FDLR. Le chargé des statistiques au bureau DDR de la MONUSCO Bukavu, Alphonse Mugoyi, en parle.
Pour les groupes armés étrangers cette année. À ce jour, on a déjà rapatrié 124 personnes au Rwanda. Et parmi les 124 personnes, nous avons 33 ex-combattants, 83 dépendants et 8 civils envoyés au ACR pour le rapatriement. Souvent, on habitait à de difficultés liées à l'accessibilité. Donc, il y a des endroits inaccessibles pour pouvoir sensibiliser les gens.
En réaction, le bureau de coordination de la société civile du site Kivu estime que ces rythmes des rapatriements est très lent. Pour le président intérimaire du bureau de coordination de la société civile du Sud Kivu, Oswald de Rubasha, la stratégie de la MONUSCO pour désarmer et rapatrier les forces démocratiques de libération du Rwanda a déjà démontré ses limites.
Durant 11 mois, 33 combattants, si on fait le calcul, c'est combien par jour ou combien par mois? Franchement, je m'excuse, sinon ça fait rire. Donc je crois qu'il y a vraiment des questions à se poser. Est-ce que toutes les stratégies mises en place par la MONUSCO pour évacuer la question de l'FDLR sont vraiment efficaces? On a tenté toutes les opérations. Des mobilisations volontaires forcées, des opérations militaires ont été engagées, des opérations conjointes, casque bleu et FARDC. Malgré tout ça, la question reste entière. La stratégie adoptée ne répond pas. Il est important que la MONUSCO revoie ses stratégies avec le mouvement congolais et les pays de la région.
Entre-temps, Oswald de Rubasha déclare que des inquiétudes planent toujours dans la population. Il interpelle la communauté internationale sur cette présence qui hypothèque la paix à l'est de la RDC.
Les FDLR sont impliqués dans le trafic minier. Ils sont impliqués dans la circulation des armes légères. Ils sont impliqués dans les viols. Ils sont impliqués dans beaucoup de crimes graves. Et aujourd'hui, je ne vois pas un seul mécanisme international qui s'occupe des FDLR. On les démobilise. Mais qu'est-ce qui est fait pour que la justice soit rendue aux Congolais victimes de ces FDLR? C'est toutes ces questions-là que la communauté internationale devait nous aider à régler. Parce qu'elle a été la première à solliciter aux Congolais d'ouvrir leurs frontières. Et nous venons de payer des tributs très lourds, cette présence-là. On doit vraiment chercher la solution des FDLR au Rwanda. Les Congolais en ont marre.
Signalons que c'est depuis 1994 que des éléments armés des nationalités rwandaises se sont faufilés à l'est de la RDC parmi les réfugiés fuyant les génocides au Rwanda. Depuis, ils se sont organisés et en 2000 sont apparus sous l'appellation des Forces démocratiques de libération du Rwanda. Ernest Muhero, Bukavu, VOA Afrique.
Merci Ernest. Concernant toujours le Rwanda et 1994, le gouvernement de Kigali réclame des excuses du Vatican pour le rôle des catholiques dans le génocide de 1994. Kigali a jugé profondément inadéquates les excuses présentées dimanche dernier par l'Église catholique rwandaise à l'occasion de la clôture par le pape François de l'année sainte de la miséricorde. Pour une réaction, Eric Manirakiza a joint à Rome l'abbé Janvier-Marie-Gustave Yameogo, chargé de l'Afrique et du secteur francophone au sein du secrétariat pour la communication au Vatican.
J'ai visité le Rwanda en 1996, donc 2 ans après le génocide. Je suis allé à Kibeho où j'ai vu les murs de l'église encore avec les traces de sang. C'était assez vif et j'ai écouté plusieurs témoins survivants à l'époque. Et vraiment, c'était horrible. On a raconté les horreurs. Des prêtres ont été tués. Des prêtres ont tué leurs collègues. Des séminaristes ont massacré des camarades séminaristes, des religieux, des religieuses également. Et jusqu'aujourd'hui, vous savez qu'il y a des prêtres qui sont en prison, des religieux, des religieuses qui sont en prison. Il s'agit d'une église qui est à la fois victime et bourreau. De nombreuses églises ont été le théâtre de tueries et de masse. Et dans cette situation, que l'Église se reconnaisse en tant qu'entité morale coupable du génocide, c'est là, je pense, le nœud du problème.
Il y a le gouvernement, par exemple, qui veut des excuses du Vatican lui-même. Quelle est votre considération là-dessus?
Je pense que le pape Jean-Paul II, durant le génocide lui-même, au mois d'avril 1994, a appelé d'une voix suppliante le peuple rwandais de ne pas céder aux sentiments de haine et de vengeance, de pratiquer courageusement le dialogue et le pardon. C'est vrai, c'est une tragédie qui a été vécue par tout le monde entier. Et l'Église aussi en a souffert. Même plus tard, le pape Jean-Paul II a envoyé le cardinal Etchegaray spécialement dans cette situation. Ce qui est dramatique, c'est que ce sont des chrétiens, effectivement, qui ont massacré d'autres chrétiens. De là à dire que l'Église est coupable, oui, mais on ne peut pas dire qu'il y a eu une Église qui a planifié et donné des ordres. Il y a eu des individus qui ont participé, des particuliers. Mais quand il s'agit maintenant de reconnaître une responsabilité du Vatican, je pense qu'à ce niveau, c'est assez délicat.
Parce que pour vous, ce n'est pas la hiérarchie de l'Église qui a planifié ce qui s'est passé.
Moi, je ne peux pas l'affirmer, puisque je vous rappelle qu'il y a eu 3 évêques qui ont été assassinés dès le départ. Et je rappelle toujours ça. Il y a des morts de part et d'autre. Il y a eu des actes de lâcheté de part et d'autre. Il y a eu des actes de bravoure aussi de part et d'autre.
Et finalement, comment réconcilier l'Église catholique au Rwanda avec le gouvernement?
Tout processus de réconciliation est long et lent. Comme je le répète, moi, j'appelle tous vos auditeurs d'abord à la prière pour l'apaisement des cœurs. Et encore une fois, ceux qui m'écoutent, que ce soit des Rwandais que je connais, ils savent très bien que il y a eu des lâchetés de part et d'autre. Maintenant, je ne sais pas qui, si c'est le pape lui-même qui, en écoutant avec l'ambassade du Rwanda ou du Saint-Siège, pourront résoudre et aider, dans quelle mesure ils peuvent aider à dénouer cette situation. Je sais qu'ils y travaillent depuis longtemps, mais je ne vois pas d'issue par rapport à cette accusation directe, quoi.
L'abbé Janvier Marie-Gustave Yameogo à Rome.
VOA Afrique à Kigali au Rwanda sur 104.3, 24h sur 24.
Au Togo, et selon notre correspondante sur place, 3000 personnes décèdent chaque année du fait de la pollution de l'environnement. Parmi les facteurs polluants, on cite le CO2, que produisent les voitures. Pour limiter cette pollution, depuis quelques années, la tendance est aux voitures solaires et électriques, un type de voiture qui est désormais produit au Togo. Reportage à Lomé de notre correspondante Kay Lawson.
Le Togo peut-il être considéré comme un pays qui fabrique des véhicules? Oui, nous répond la société Le Monde de l'énergie. Cette structure vient de mettre sur le marché togolais des voitures hybrides qui fonctionnent à l'électricité et à l'énergie solaire. La société productrice affirme que son objectif est d'abord environnemental. John Comlin de la société Le Monde de l'énergie.
Nous avons une richesse au fait en Afrique qui est le soleil. Et notre environnement est dégradé de jour en jour. Et ces voitures 100% écolo sont venues pour aider à lutter contre la dégradation de l'environnement. Nous avons des problèmes de nuisance sonore dans la ville. Et ces voitures, c'est zéro bruit, c'est zéro carburant aussi. Elle n'a pas une portée seulement environnementale, mais une portée économique aussi, puisque vous ne dépensez pas en carburant, vous ne dépensez pas aussi en vidange et en maintenance réelle pour des voitures à carburant.
Lancée il y a moins de 3 mois, la voiture togolaise séduit plus d'un et même au-delà des frontières. Le défenseur de l'environnement, le Ghanéen Wisdom Adjavlo, de retour de la COP22, a fait un tour au Togo pour apprécier le chef-d'œuvre togolais.
Honestly, it's a very good innovation.
Honnêtement, c'est une très bonne innovation. Ce que nous venons de voir est très encourageant pour l'avenir de l'environnement. Nous sommes convaincus que c'est un début et c'est quand beaucoup de personnes pourront avoir accès à ces voitures que nous pourrons dire nous nous acheminons vers nos objectifs. Ces voitures vont aider à réduire le réchauffement climatique à 1,5 degré et pourquoi pas à 0 degré.
Not 1.5.
Parfait Paraï, technicien au monde de l'énergie, nous parle de l'autonomie de ces voitures hybrides.
L'autonomie varie selon le modèle et le type. De manière standard, nous avons des véhicules qui ont une autonomie de 120 km. Mais par rapport à cette autonomie, il faut aussi associer la part du soleil là-dedans. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que la personne est en train de rouler, il y a une partie de l'énergie dépensée qui est en train d'être rechargée par le panneau solaire. Donc, les véhicules qui font 120 km pourront passer à 160 km ou 170 km.
Même si les caractéristiques de ces véhicules sont attrayantes, certains Togolais souhaitent en posséder, mais se retrouvent dans l'impossibilité faute de moyens. Ignon Vouti.
C'est vrai que le coût pour le moment n'est pas accessible à tous les Togolais, mais cette idée de voiture électrique ne vient que de démarrer. Donc je crois que par rapport à ce coût, une étude sera faite pour voir comment on peut mettre ça à la disposition du commun peuple.
Pour Sena Aluka de l'ONG Jeunes Volontaires pour l'Environnement JVE Togo, le jeu en vaut la chandelle.
Tout à un coup, avec cette voiture électrique, vous n'avez pas besoin de maintenance. Normalement, au bout de 6 mois d'utilisation, vous devez savoir vous-même faire quelques petits entretiens. On appelle ça en anglais « do it yourself ». C'est pas compliqué. Au-delà de ça, vous ne payez pas de carburant, donc vous faites une économie importante. Et puis, l'autre chose qui est assez intéressante, c'est que vous ne tomberez pas malade de votre propre voiture. Actuellement, nos voitures nous rendent malades. J'achète une voiture solaire électrique, et bien j'achète non seulement une voiture, mais j'achète aussi la vie. Et j'achète aussi l'économie.
Les voitures hybrides made in Togo ont une vitesse maximale de 60 km/h, disposent de caméras de recul, de ventilateurs et de radios intégrées. Kay Lawson, Lomé pour VOA Afrique.
Au Mali, une prothèse en matériaux de récupération permet à une Malienne de remarcher. Tout a commencé quand un jeune Malien a rencontré une petite fille unijambiste et décide de lui fabriquer une prothèse améliorée à partir des matériaux en question. Alors, Arzuma Compaoré nous relate l'histoire de cette merveilleuse rencontre.
Adjaratou vit dans un quartier pauvre de Bamako avec sa famille. Après avoir perdu sa jambe dans un accident de la route avec un motocycliste, c'est à l'aide de béquilles qu'elle a dû réapprendre à marcher. Pour aider sa famille, malgré tout, elle se rend régulièrement au bord des routes pour mendier. C'est là qu'un jour, elle fait la rencontre d'Issa, un technicien biomédical de profession et un génie de la technique à ses temps perdus. Pris de compassion et obsédé par l'image de cette petite fille aux béquilles, il va se lancer dans un projet fou, celui de lui fabriquer une nouvelle jambe.
Quand j'ai vu cette petite fille sans les jambes avec ses béquilles, c'est trop fort.
Monsieur et Madame Sanogo, les parents d'Adjaratou, donnent leur accord et la fabrication commence. Issa libère son génie créateur à base de matériaux de récupération et à l'aide de l'association Action Positive dont il est le président. Au bout de 3 semaines, l'ExoSapien One voit le jour. Le coût de la fabrication, moins de 200 000 francs CFA. Adjaratou va enfin pouvoir essayer sa nouvelle jambe. Le résultat est magique et pas besoin de poser de questions. Le sourire d'Adjaratou dit tout.
Le point d'appui, c'est mobile. Vous avez l'articulation aussi mobile. Une fois qu'elle grandit, bon, elle peut ajuster la prothèse, c'est-à-dire augmenter de taille.
Rien que le fait qu'elle puisse se rendre à l'école et à d'autres endroits, rien que cela, c'est une réussite en soi.
Ce que j'aime, moi, c'est les voitures, les poupées et les vélos.
Pour Issa, la joie d'Adjaratou et de sa famille ne sont pas sa seule source de satisfaction.
Il y a pas mal de gens qui sont dans le besoin. Ils n'ont même pas d'argent pour se payer une prothèse. Qu'elle arrive à marcher, je ne peux que remercier Dieu. Il faut qu'on arrive à produire chez nous. On a des bras valides, on a des cerveaux. Il faut qu'on se dise on peut, et puis on va arriver. Si je pouvais en avoir, par exemple, un imprimante 3D, ça serait plus facile, plus rapide. On reproduit le pied naturel directement.
Pour l'heure, Adjaratou est la nouvelle sensation du quartier. Et c'est fièrement qu'elle parcourt désormais les rues en compagnie de ses amis, prête à conquérir le monde.
« Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Merci aussi à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idriss Assédoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.